envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, nous sommes en direct donc des Planchettes, joli petit coin de paradis dans notre coin, dans notre canton, pardon. On vous retrouve là-bas, Claire. Bonjour.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Soyez les bienvenus dans l'air de jeu. Une nouvelle édition estivale, hein, vous le savez, jusqu'à la fin de notre grille d'été. Eh bien, tous les dimanches, RTN se déplace dans notre région, dans notre zone de diffusion. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a installé notre matériel ici sur la place du village. Des Planchettes, on est à côté de l'Abribus, on est juste en face du rond-point. Et on vous propose aujourd'hui de faire plus ample connaissance avec le conseiller national Didier Calam, qui nous reçoit dans son fief. Bonjour Didier, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien.
Alors, vous êtes député du canton de Neuchâtel au Conseil national depuis 2023. Vous êtes entré en fonction le 4 décembre. Vous êtes né ici aux Planchettes le 7 septembre 1972.
7 novembre.
Ah, 7 novembre. Ah, d'accord. Alors, vous êtes né le 7 novembre 1972 aux Planchettes. Vous êtes à la tête d'une exploitation agricole qui compte une centaine de vaches. Avec votre franc-parler, Didier Calam, vous êtes également patron d'une entreprise d'assainissement et vous déclarez « je suis un terrien ».
Oui, je suis un terrien, je reste les pieds sur terre. Malgré tout ce qui se passe actuellement, je reste un homme de la terre.
Et durant plusieurs semaines, vous faites un petit peu les trajets entre le Valais et ici le canton de Neuchâtel. Pourquoi ?
Ben, suite aux graves inondations qu'il y a eu à Sierre au début juillet, là, on a été mandaté par un collègue qui a aussi une entreprise d'assainissement parce qu'il fallait énormément de camions d'assainissement et de curage pour pomper toutes les boues qui sont déversées dans les caves et surtout sur le site de anciennement Alu Suisse. Il y a un boulot titanesque. Et puis, ben, les Valaisans, de toute façon, ils n'avaient pas assez de véhicules. Alors qu'ils ont réquisitionné beaucoup de camions d'entreprise dans le pays. Et puis nous, ben, on s'est porté volontaire pour descendre. Alors, ben, ça fait depuis début juillet qu'on a un camion, des fois deux, donc dans les alentours de Sierre.
En tout cas, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin, d'avoir pris du temps pour être dans l'air de jeu et sur RTN, parce que vous êtes donc agriculteur, vous êtes conseiller national, vous êtes patron de cette entreprise d'assainissement, vous avez d'autres passions comme les sentiers du Doubs. Mais est-ce que vous avez encore du temps pour vous, Didier Calam ?
Ouais, pas beaucoup, mais j'essaye d'en prendre un peu quand même. Mais c'est vrai qu'actuellement, surtout cette période-là, j'ai pas beaucoup de temps, mais il y a aussi au niveau politique, c'est un peu plus calme pendant le mois de juillet jusqu'à mi-août. Donc ça m'a permis aussi de m'engager un peu plus professionnellement. Puis j'ai aussi quand même du personnel qui bosse autour de moi. Donc le temps pour moi, j'en ai pas beaucoup, non, ça c'est sûr.
On va passer à notre premier jeu qui est celui-ci.
L'air de jeu, le défi.
Le défi, alors voilà, c'est quelque chose qu'il faudra nous apporter ici aux Planchettes pour remporter une carte Landy de 20 francs. Alors qu'est-ce qu'on va demander aux auditeurs de nous amener ? Il faut que ce soit la première personne hein, qui vienne ici pour remporter ce bon.
Ben, on pourrait demander qu'ils amènent une... Vu qu'on est aux Planchettes, l'origine du nom des Planchettes, c'était parce que c'était des petits prés qui avaient été défrichés. Et donc, en forme de Planchettes, on pourrait leur demander qu'ils nous amènent une Planchette et puis éventuellement une bouteille de blanc pour l'apéro, puisqu'aux Planchettes, on est tout sauf des tempérants. On aime bien boire un verre, puis faire l'apéro, puis faire la fête. Alors, le premier qui amène une Planchette et puis une bouteille de blanc ou d'œil de perdrix, eh ben, il sera le bienvenu. Puis après, on lui payera aussi l'apéro un peu plus tard.
Donc une Planchette en bois, ça c'était comment ? Comment c'était défini ces petits prix avec les Planchettes ?
Ben en fait, les premiers qui sont venus défricher, là, ils défrichaient des petites parcelles dans la forêt, ils laissaient les autour. Puis c'était des petites parcelles qui faisaient peut-être un demi-hectare en forme de Planchette. Et c'est là que vient le nom du coin, quoi.
Ah, d'accord, on ne délimitait pas une zone, un genre de pré avec des petites Planchettes.
Non, non, du tout. Alors, c'était, je pense, que, en tout cas, dans les écrits, c'était vraiment le pré avait la forme d'une Planchette. Et puis, je pense que c'est devenu les Planchettes à cause de ça. Le village a été défriché. Les premiers habitants sont venus aux Planchettes au début des années 1600. Ils avaient déjà colonisé la vallée du Doubs. Et puis, ils sont montés sur les hauts, ben, je pense, début 1600, les plus vieilles maisons datent de ces années-là. Et puis, ben, c'est vraiment encore aujourd'hui. Il y a des prés qui sont vraiment délimités par les haies, vraiment en forme, c'est tout des petites parcelles en forme de planchette.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et voilà, on vous retrouve aux planchettes, Claire.
Effectivement, avec toujours notre invité Didier Calame, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. On va faire plus ample connaissance d'ailleurs avec le conseiller national. Alors, on va vous faire passer un petit test de personnalité. Je vous ai demandé de choisir quatre chiffres de 1 à 40. Voici les questions qui s'y rapportent. Quel est votre rêve de bonheur, Didier Calame ?
Oh, ça c'est une grande question. Que tout aille bien, qu'on ait toujours du boulot, que les clients soient contents de nous au niveau professionnel, qu'au niveau familial, ben, tout se passe normalement, bien. Et puis, ben, le bonheur, il est un peu comme on se le fait, quoi. Je pense que je suis un gars qui je ne veux pas dire qu'il nage dans le bonheur, mais je pense que j'ai choisi ce que je fais. Et puis, je pense que le bonheur, c'est ce qu'on choisit de faire dans la vie, quoi. C'est ça.
La couleur que vous préférez, pourquoi ?
Le bleu.
Oui, pourquoi ?
Je sais pas, c'est depuis toujours, j'ai toujours aimé le bleu, mais je l'utilise pas beaucoup dans ma vie, le bleu, mais c'est le bleu.
On passe à une autre question. Qu'est-ce qui peut vous rendre triste ?
L'injustice et puis la tricherie, ça j'aime pas. Mais tout ce qui se passe dans le monde, ces espèces de guerres liées à la religion puis à l'argent, c'est triste. Mais là aussi, ben, on essaye de ne pas être triste, parce que sinon, ben, on est triste toute notre vie.
Alors, si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel que vous aimeriez avoir comme super pouvoir ?
Oh, je ne sais pas, c'est dur à dire. Que, ben, qu'il n'y ait pas de guerre, que tout se passe bien, comme dans le meilleur des mondes, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de choses que je voudrais faire avec un super pouvoir.
Alors, on sait que vous aimez également la nature et puis le Doubs. Alors, c'est une grande histoire, hein, le Doubs et vous, Didier Calame.
Oui, ben, le Doubs et moi, c'est une grande histoire puisque déjà les premiers Calames qui sont arrivés dans la région depuis le Locle, ils exploitaient donc des moulins dans les côtes du Doubs. Et puis, depuis toujours, depuis gamin, avec mon père surtout, on allait au Doubs, on allait se promener au Doubs. Puis après, ben, j'ai continué d'être amoureux du Doubs puis de la vallée du Doubs. Donc, quand je me suis engagé avec pour les sentiers du Doubs, pour l'entretien de ce territoire. Et puis, c'est vrai que quand j'ai un peu le blues ou que j'ai besoin de m'isoler, je prends mon bâton de pèlerin puis je descends au Doubs à pied. Depuis chez moi, je suis à 10 minutes, un quart d'heure du Doubs. Et puis, on va marcher là, le long, c'est juste magnifique.
Un bon moyen pour se ressourcer que de faire de belles balades comme ça au bord de cette rivière.
Ah oui, c'est super reposant et puis c'est dépaysant. Puis chaque fois que vous descendez au Doubs, il y a toujours quelque chose de nouveau. Vous découvrez plein de nouvelles choses. C'est une vallée sauvage du Doubs, donc des Brenets jusqu'à Saint-Hippolyte. Elle est magnifique.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aux planchettes, ils sont rapides, hein, parce que le défi a déjà été relevé.
Et je ne vous dis pas, hein, Florian. Alors, on a une planchette, on a une bouteille, et puis on a même le fromage, grâce à Sandrine. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand vous avez entendu notre défi ?
Je préparais le dîner.
Ah, et il y a quoi au menu chez vous ?
Un gratin savoyard.
Ah, ça consiste en quoi ? C'est comme le gratin dauphinois ou qu'est-ce qu'on y rajoute ?
Des pommes de terre et puis au milieu des saucissons neuchâtelois, des pommes de terre tout autour, du fromage râpé, de la muscade, du poivre, un peu de blanc, un peu de vin blanc et du lait, pardon.
Oh, mais ça a l'air délicieux tout ça. Est-ce que vous aimez manger, Didier ? Quel est le plat qui vous fait craquer ?
J'aime un peu tout, moi. J'aime bien un peu tout ce qui est traditionnel. J'ai pas vraiment de plat qui me fait craquer, mais un bon rôti avec un gratin dauphinois ou bien saucisson de château à la braise, ça c'est des vrais bons menus.
Vous avez déjà goûté le fameux gratin savoyard que prépare Sandrine ?
Non, mais je l'appellerais plutôt le gratin neuchâtelois, puisqu'il y a des saucissons neuchâtelois dedans.
Ouais, c'est vrai, on pourrait le rebaptiser, non ?
Oui, aussi.
Mais voilà, on vous remercie beaucoup, Sandrine, d'avoir réalisé ce défi. On va vous remettre le bon cadeau. Et c'est quoi la suite de votre journée ?
Alors, du repos, parce que j'ai un genou mal foutu. Alors, je vais pas trop faire de folie.
D'accord, mais en tout cas, on vous garde sous la main hein, pour après déboucher la bouteille.
Parce que Didier a le petit bouchon. Hein.
Et quand vous avez du temps pour vous, est-ce que vous avez d'autres passions ? Enfin, qu'est-ce que vous aimez faire, à part vos balades sur le Doubs ? On a vu que vous aimez aussi manger, mais qu'est-ce qu'il y a encore que vous appréciez, Didier Calame ?
Ben, j'aime un peu toutes sortes, mais ben, l'hiver, je vais certaines fois voir les matchs de hockey. Je suis quand même un grand fan du HC La Chaux-de-Fonds.
Ah, c'est pour ça que vous nous avez envoyé une photo du HCC ?
Oui, parce que ben, j'ai toujours apprécié le HC La Chaux-de-Fonds. Comme beaucoup d'autres clubs de hockey, je suis un grand fan de hockey, de sport, même si j'en fais pas.
Et en étant jeune, vous n'avez pas pratiqué un sport ?
Si, ben justement du hockey, mais dans des équipes bout de bois, la course à pied. Je faisais beaucoup de vélo quand j'étais avant 20 ans, mais après, c'est devenu pénible parce que j'ai pris aussi un peu de poids, puis c'était moins facile qu'avant, quoi.
J'imagine bien. Mais voilà, c'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur que se déroule l'air de jeu ici, en direct des planchettes avec notre invité Didier Calame.
Envie de prendre l'air ? Jusqu'à midi, c'est l'heure de jeu.
Et là, vous avez même des candidats ou des candidates, Claire.
Nous avons des candidats. Quel est votre prénom ?
Nadia.
Nadia. Et quel est votre prénom ?
Rui.
Et c'est de quelle origine ?
Portugaise.
Vous appréciez ici les planchettes ?
On apprécie tout le canton de Neuchâtel, les planchettes, le local, comme la semaine passée, où il y avait les chiens.
Ah oui, c'était il y a 15 jours.
15 jours, pardon, oui. Voilà. Exactement. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en portugais ? Bonjour et bienvenue sur RTN, c'est l'heure de jeu.
Bon dia a todos et bienvenidos à l'heure de jeu sur RTN.
Moi, je sais que dire bacalhau.
Bacalhau.
Voilà, je sais dire que ce mot-là.
Obrigado aussi.
Ah oui, obrigado, c'est juste.
On va manger à midi, le bacalhau.
Ah, vous êtes aussi portugaise, Nadia ?
Origine des Franches-Montagnes.
Vous avez choisi un jeu qui est celui-ci.
L'heure de jeu. Le juste mot.
Alors, le juste mot, je vais vous lire des phrases qu'il faudra compléter hein, avec ben voilà, la bonne réponse, on l'espère pour vous. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Complétez ce proverbe d'Alfred de Musset, en ne avec l'amour.
On ne badine pas avec l'amour.
Quel est le mot manquant à cette chanson de Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne ? Un peu de swing, un peu du king, pas mal de feeling et de...
Bonheur.
Terminez cette expression populaire... Être copain comme...
Cochon.
Bravo. Alors effectivement, on ne badine pas avec l'amour. Un peu de swing, un peu du king, pas mal de feeling et de décibels.
Yes.
Et puis, copain comme cochon, effectivement. Eh bien, on va vous offrir un petit cadeau. En tout cas, merci pour votre participation. On vous souhaite un bon dimanche.
Merci, pareillement. Bon dimanche.
Merci aussi. Obrigado.
10h, midi. Envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Bon, on peut le dire, aujourd'hui on prend de l'air frais ou de l'air, du bon air aux planchettes avec vous Claire.
Effectivement, et je ne vous dis pas le nombre de planchettes qu'on a devant les yeux. Alors on a une autre planchette qui est arrivée, il y a du fromage, il y a du salami, il y a que de bonnes choses. Hein.
Ah, ça a l'air bon en tout cas, ouais, c'est planchette, planchotière.
Qu'est-ce que vous aimez vous ici justement dans ce village des planchettes ?
Ah ben, le calme, l'authenticité, l'indépendance, les gens qui s'engagent pour les sociétés locales, on réussit encore d'avoir quand même une autonomie communale, on se bat pour. Et puis, ben, c'est le territoire qui est magnifique. On est quand même en marge un petit peu du canton de Neuchâtel, puisqu'il faut savoir que notre vue, elle est sur la Franche-Comté et puis pas sur le canton. Donc, on est quand même, les planchotiers sont quand même des gens un peu... comment dire, un petit peu indépendant, puis on arrive à maintenir ça, on doit se battre, et puis moi personnellement je me bats pour cette indépendance déjà au niveau communal, et puis au niveau du caractère, les gens c'est un peu des durs, mais au cœur tendre, comme on dira.
Alors, pour les gens qui viennent s'établir ici, c'est quoi qu'ils choisissent? Oui, c'est quoi qui leur fait choisir ce lieu des planchettes? C'est quoi qu'ils apprécient?
Ben, je pense que déjà, premièrement, le calme. On n'est quand même pas loin de la ville, de la Chaux-de-Fonds. On est à 10 minutes de la ville, donc on est déjà au calme. Vraiment, il y a pas de gros, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de bruit. Les gens sont... C'est agricole. Et puis, c'est beau, c'est atypique, les planchettes. Il faut venir, ceux qui ne sont jamais venus. Il y a beaucoup de gens dans le canton de Neuchâtel où je suis surpris quand je vais chez des clients. C'est où les planchettes? Ceux du bas, ils ne savent peut-être même pas où c'est les planchettes. C'est déjà en France, les planchettes. On pourrait croire, si on devrait une fois fusionner, on pourrait fusionner Grand Comte des Bois ou bien le Barbou. On est plus proche d'eux que des gens du bas, mais on est une commune neuchâteloise à part entière et puis on est fiers d'être neuchâtelois quand même.
Alors, ce qu'il y a aussi qui fait la réputation des planchettes, en tout cas quand on venait en course d'école et puis pour les sportifs, c'est les fameux escaliers pour descendre au Doubs.
Oui, alors c'est les escaliers du funiculaire du Châtelot qui sont fermés maintenant depuis un certain nombre d'années parce que c'est des installations professionnelles publiques qui appartiennent à la Société des Forces Motrices du Châtelot. Mais à l'époque, c'était les terrains d'entraînement de grands sportifs qui faisaient par exemple Sierzinal ou des courses de montagne qui venaient faire ces escaliers. C'est un des funiculaires, la rampe est une des plus raides d'Europe. Et puis il y a des escaliers décalés. Alors nous, on l'a fait quand on était gamin. Puis quand je faisais du vélo, j'allais souvent faire ces escaliers. Ben ça, c'est un super entraînement pour les cuisses, je peux vous le dire. Mais aujourd'hui, on ne peut plus les emprunter pour des normes de sécurité. On peut toujours, mais c'est officiellement, c'est interdit.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et on retourne aux planchettes avec toutes les planches. Vous pourriez faire des trous dans les planches pour faire des mètres de bière, Claire. à consommer avec modération.
En tout cas, on est vraiment bien accueillis ici. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est vraiment sympathique, c'est familial. Il y a vraiment une bonne ambiance. Ça va les planchetiers?
Oui.
Oh, mais c'est mou, hein, tout ça.
Oui.
C'est un petit peu mieux. Dans les photos que vous nous avez envoyées, on vous voit bien évidemment au bord du Doubs. On vous voit aussi avec quelqu'un qu'on connaît bien sur RTL. C'est Laurent Petitpierre qui est maintenant... un jeune retraité qui habite ici les planchettes. Venez vers nous, Laurent. Alors, il y a cette photo où on vous voit tous les deux. Bonjour, comment ça va, Laurent?
Ben, ça va très, très bien. Depuis le début de la retraite, ça va pas mal. Ouais.
Alors, vous vous occupez tous les deux de... Il y a une photo où on vous voit à table, vous pique-niquez. Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Ouais, on est un petit groupe là, des Sentiers du Doubs. On est plutôt actifs parce que ça se passe comme ça au niveau de l'entretien. On a des journées de travail où il y a un peu tout, c'est tous des gens à la retraite qui viennent. Et là, on fait un peu le nettoyage des sentiers, puis il y a de temps en temps des gros mandats. Et puis là, on a dû remplacer une table au lieu dit Bonaparte, qui est entre la Maison Monsieur et les Graviers. Et puis c'est un de nos collègues, Vincent Delay, qui a, avec sa fille, ils ont refait la table. Moi, j'ai fourni le bois, puis Laurent Petitpierre est venu nous aider à monter cette table. Et puis c'était un samedi, on a fait ça tip-top en ordre. Puis forcément, après, on pique-nique, puis on boit un verre.
Alors, c'est vrai que les photos sont magnifiques. Approchez-vous, Laurent. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici, dans ce village des planchettes?
Alors, Didier l'a déjà dit plusieurs fois. Je crois que c'est le calme et puis c'est la convivialité du village. C'est vraiment des moments sympathiques qu'on passe ici. Et puis moi, en plus, j'habite à l'extérieur du village. Donc, c'est vraiment un coin idyllique, finalement. Les gens payeraient pour venir en vacances chez nous.
Et les gens viennent volontiers ici se balader et puis justement avec les Sentiers du Doubs, c'est un petit peu c'est quoi le but de cette association?
Ben justement, ces sentiers ont été créés en 1903 d'après la date des statuts qui sont toujours aujourd'hui d'actualité. On n'a jamais révisé les statuts. Et puis en fait, c'était au départ dimanche payé dans ces débuts du siècle. Puis ils ont créé ces sentiers. En fait, les sentiers existaient déjà en partie puisqu'il y avait les industries, la fin des industries au bord du Doubs. Et puis la Société des Sentiers du Doubs ont continué de créer, de maintenir ces sentiers justement pour ces gens, parce que les gens ne partaient pas comme maintenant au Diable Vert avec un avion pour leurs vacances. Ils venaient se promener dans la vallée du Doubs, surtout depuis la Chaux-de-Fonds, puis le Locle. Puis on continue de maintenir ces cheminements. Il y a énormément de tourisme doux dans cette vallée du Doubs. Et puis, c'est pour ça qu'on continue de maintenir ça, parce que s'il n'y aurait plus des sociétés comme nous de bénévoles, c'est fini, il n'y a plus rien qui se ferait, parce qu'il n'y a aucune institution publique qui a les moyens et puis le pouvoir de continuer d'entretenir. C'est un boulot titanesque qu'on fait tout au long de l'année, depuis Morteau jusqu'à Saint-Hippolyte. Alors, il y a plusieurs sections françaises et suisses qui s'occupent d'entretenir ces sentiers pédestres.
En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, ben voilà, l'air de jeu se poursuit ici aux Planchettes. En plus, on a un temps, mais magnifique.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Elle est vraiment belle, la vie ici, du côté des Planchettes. Alors, Didier Calame, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans la politique ?
Oh, mais il y a longtemps que je fais de la politique, depuis 1996. J'ai toujours voulu m'engager pour mon village. Et après, j'ai fait politique cantonale. Et puis après, j'ai dit, j'avais arrêté un moment, là, pendant 3 ans, le Grand Conseil. Et puis j'ai dit, j'essaye une tentative au Conseil national. Et puis je me suis mis en liste et puis on voit le résultat, quoi. J'étais super fier, super content. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui m'engage, je continue ici à la commune. Et puis je pense que si chacun sur cette planète s'engagerait un peu dans une cause, ça irait bien aussi.
Comment vous avez vécu cette fameuse journée de décembre ?
L'intronisation au Palais fédéral, ouais, c'était assez spécial, humble, et puis une certaine fierté quand même si je reste toujours avec les pieds sur terre.
Comment ça se passe, une journée, quand vous êtes justement au Palais fédéral ?
On commence en général, ça dépend, lundi, on commence l'après-midi, ou si on fait des journées complètes, c'est le matin. On va à 8h, puis on suit les débats, si on fait partie d'une commission, on prend la parole sur des rapports ou autres. Les travaux du Conseil national sont plus en commission, en fait. Les travaux se font déjà en commission, puis après, ça passe au plénum. Puis là, en général, il n'y a plus grand-chose à dire, mais chacun prend quand même la parole dans les groupes, s'il y a des rapporteurs, et puis c'est quand même assez intense, mais ça ne traîne pas trop, c'est pas comme au Grand Conseil, où des fois on repart en commission, tout le monde, on a traité les dossiers en commission, mais ça revient toujours au plénum, puis ça n'en finit jamais. Alors au Conseil national, c'est traité en commission, le rapport arrive au plénum, puis on suit un rapport normal en l'espace d'une demi-heure, une heure, c'est réglé, puis on passe au suivant.
Est-ce que cette élection, elle a changé quelque chose dans votre vie ? Comment sont les gens maintenant avec vous ?
Moi, ça a changé quand même le fait que j'ai passé un palier, mais en restant le gars que je suis, donc tous ceux qui me connaissent me connaissent comme ça, mais on voit que les gens, quand ils me rencontrent, ils ont un prestige à rencontrer le Conseil national. Puis des fois, je ne veux pas dire que ça me dérange, mais je n'ai pas l'habitude de ça. Même qu'avant, je faisais déjà de la politique, mais maintenant, c'est vrai qu'on voit, puis avec mon caractère de terrien, je ne suis peut-être pas le politicien qui va se montrer, qui va un petit peu dire « Ouais, moi, je suis conseiller national. Moi, je suis conseiller national. » Donc, j'ai pris des responsabilités, mais je reste quand même assez humble et puis toujours avec les pieds sur terre. Mais je vois bien que les gens, ils essayent de venir comme à Sierre, là, justement, sur ces gros chantiers d'inondation. Même le conseiller d'État du Valais qui est venu, il était surpris de voir un conseiller national les mains dans la merde, comme on dit.
Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que vous êtes resté vous-même, que vous n'avez pas pris la grosse tête, comme on dit.
Non, alors ça, je ne vais pas prendre la grosse tête, non, non. Non, non, moi, je suis un gars comme ça. Puis c'est peut-être aussi ça qui fait que je sois élu. Puis les gens, ils apprécient, mais ça reste quand même un mandat sérieux. Il faut faire le boulot et puis aller de l'avant, puis essayer, comme on dit toujours, la politique, c'est pas facile, mais essayer de faire changer certaines choses, d'améliorer le quotidien des gens, parce que c'est pour ça qu'on est élu. Mais alors, c'est tout sauf facile, voilà.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Aux Planchettes, où il y a une bonne ambiance, Claire, des bonnes choses sur la table. Donc on vous invite à si vous passez pas loin dans la région, à vous arrêter vers vous.
On passe un agréable moment ici avec les Planchettiers et puis notre invité, Didier Calame, conseiller national, qui nous fait l'amitié de partager cette matinée avec nous. Les gens aiment bien les anecdotes, et là vous nous en avez raconté une pendant les infos de 11h qui est vraiment drôle. Alors c'est vrai que quand j'ai cherché votre date de naissance, eh bien sur Wikipédia, on donnait la date du mois de septembre, et en fait c'est faux, hein, vous êtes né au mois de novembre et vous êtes scorpion.
Ouais, je suis né le 7 novembre aux Planchettes, enfin à Chaux-de-Forme. Et puis je dis toujours, je suis le scorpion ascendant en bouc.
Pourquoi ?
Parce que mon père, le 6 novembre 1972, il s'est arrêté au café Graff au jour derrière. Et puis, bien sûr qu'à l'époque, c'était, je pense, un lundi, je crois que c'était un lundi, puisque moi, je suis né un mardi. Il avait fait un coup de commerce avec le restaurateur qui était aussi Maquignan. Et puis, il avait acheté un bouc. Puis ce bouc, ils avaient été le chercher dans l'étable qui était en dessous du bistrot. Il avait déjà traversé le bistrot. C'était un bouc qui devait puer pas mal. Il l'avait mis sur le dos du facteur Sando à l'époque, qui était aussi un petit peu imbibé. Puis, en fait, pour finir, ce bouc, il voulait le ramener à la ferme, qui était à 3 km du restaurant. Et puis, il voulait l'attacher. À l'époque, il avait une VV coccinelle, mon père. Et puis, il voulait l'attacher derrière l'auto pour le ramener comme ça, gentiment. Puis, le Graff, là, Henri Graff, le Maquignan restaurateur, il a dit « Ah, t'es un salaud, tu veux pas traîner ce bouc-là là, derrière cet auto ?» Il l'a mis dedans. À l'époque, mon père était forestier bûcheron. Il avait cet auto, puis il a enlevé le siège avant du côté droite. Puis, il mettait ses machines. Puis, bien sûr, quand il a mis le bouc dans l'auto, ben, le bouc, il était derrière, sur la place, les places arrière. Juste un souci, c'est que la nuit du 6 au 7, il a dû emmener ma mère à l'hôpital pour accoucher de moi. Et puis, arrivé à la maternité, les infirmières, elles disaient « Il y a une drôle d'odeur ici, il y a une drôle d'odeur. » Donc, c'est pour ça que je suis ascendant au bouc.
Ça, c'est vraiment une jolie anecdote. Est-ce que vous avez des boucs chez vous, dans votre ferme, ou pas du tout ?
Non, du tout. J'aime pas les chèvres, j'aime pas les boucs, j'aime pas les moutons. Donc, j'ai jamais eu tellement de ces bêtes. Mais voilà, à l'époque, après cette histoire, le bouc, il l'avait vendu à son cousin dans les maisons de l'usine du Châtelot. Puis tous les gamins allaient flatter ce bouc. Or, les mères, elles râlaient parce que les gamins rentraient à la maison, ils puaient tous le bouc. Pour finir, ils avaient dû tuer le bouc. Il l'avait vendu à ses copains espagnols qui avaient racheté là, les pouilles pour le manger. Puis même tué, je crois qu'il puait encore. Donc, le pauvre bouc, là, il avait vécu une fin de vie assez mémorable, quoi.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
On reçoit des messages WhatsApp, Claire, d'une Marianne qui s'était mariée en juillet 1974 devant la fameuse salle des planchettes, qui était bien connue des chaudefonniers. Elle se faisait souvent louer pour faire des fêtes.
Il y a toujours la salle des fêtes.
Oui, il y a le pavillon des fêtes qu'on peut louer. Il est énormément convoité, ce pavillon des fêtes, déjà parce que la salle se prête bien pour les mariages, les anniversaires. On peut mettre jusqu'à 150 personnes, il y a la cuisine. C'est authentique comme ça. Alors, en fait, ce pavillon des fêtes date de l'Expo de 1964 à Lausanne. Il avait été racheté par la Société de développement en 1963. Ils l'ont démonté, ou acheté en 64, puis démonté en 65, je ne sais plus exactement. Et puis, cette salle est vraiment tout en bois. C'est vraiment une belle salle. Il faut aller sur le site de la commune des Planchettes pour voir les disponibilités. On ne l'a jamais loué pour les divorces encore. Mais les mariages, des assemblées, il y a eu des assemblées cantonales de tir, de la Fédération des sapeurs-pompiers. J'ai une anecdote, à l'époque, ils avaient organisé en 2001 l'assemblée cantonale de la Fédération, je crois, des sapeurs-pompiers. Et puis c'était Monica Dusson qui était conseillère d'État. Alors bien sûr, nous on avait tout organisé. L'assemblée se faisait dans le temple des planchettes et puis le repas, la partie récréative se faisait dans le pavillon. Et puis elle est arrivée avec sa voiture et puis c'était les pompiers parce qu'en fait on avait mis des jeunes pompiers pour faire le parquage. Puis Madame Dusson arrive et puis le pompier en question, le jeune, lui dit « faut vous mettre là ». Puis c'était dans une partie herbeuse et puis elle a ouvert sa fenêtre et elle a dit « ouais mais moi je suis conseillère d'État ». Puis le jeune lui a dit « conseillère d'État ou pas, vous vous mettez là ». Un point, c'est tout. Puis elle s'est parquée là. Puis ça, c'est comme ça aux planchettes. Il n'y a pas de chichi. Et puis, pour dire que la salle est disponible à tout le monde, quoi.
Et puis là, on a une vue là, sur le tombe, justement. Est-ce qu'il y a encore des mariages ? Est-ce qu'il y a encore des célébrations ?
Oui, il est utilisé un peu moins parce qu'on fait partie de la paroisse de la Chaux-de-Fonds. Puis vu qu'il y a aussi beaucoup moins de fidèles, qui sont fidèles mais qui ne pratiquent pas, il y a quelques cultes qui se font encore. Et puis, il appartient à la commune, donc on fait tout pour que ce bâtiment historique, qui date de 1702, soit toujours en état de fonctionner. Il y a des enterrements qui se font aussi, puis des mariages, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les week-ends quelque chose qui se passe dans le temple, mais là aussi, tout le monde peut venir se marier aux planchettes, ou faire un enterrement, ou toutes autres sortes. Maintenant, il n'y a pas de manifestation autre que ça qui se fait dans le temple, parce que on est assez respectueux des institutions. Le temple reste un lieu de culte. Et puis, même si aux planchettes, on n'est pas les plus fidèles des fidèles, mais on a quand même ce temple qui a une histoire. Quand même, il faut savoir qu'en 1700, les planchettes, ce n'était pas une commune. On faisait partie du territoire qui appartenait au Locle puis au Brenet. C'était déjà deux communes distinctes. Et puis les planchotiers, ils n'avaient pas de lieu de culte. Ils devaient aller enterrer leur mort au Brenet ou au Locle. Et puis ils se faisaient rançonner par les bandits en route, parce qu'il faut connaître la région avec la vallée du Doubs. Et puis à l'époque, ils avaient demandé à la duchesse de Nemours de pouvoir construire ce temple et puis de créer une paroisse, ce qui avait été autorisé. Puis le temple des Planchettes a été inauguré en 1702, alors que le territoire n'était même pas une commune, puisque la commune des Planchettes n'est pas vieille, elle date de 1812. Et puis ce bâtiment a été fait comme beaucoup de temples. Il ressemble fortement au temple de Saint-Imier, par exemple. Et puis il a toujours eu cette fonction de lieu de culte dans une commune protestante.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et on prend l'air aux Planchettes aujourd'hui avec Claire. Vous faites envie avec les belles photos, là, avec ce joli fromage, là, ça vous ouvre l'appétit.
Nous sommes toujours bien installés ici à côté de l'arrêt du bus qui vient ici aux Planchettes. On est en face du fameux giratoire qui est magnifiquement fleuri. Vous avez une nouvelle anecdote à nous raconter. C'est un rapport avec le Palais fédéral ?
Oui, oui. C'est que je crois que c'était à la première session ou à la deuxième. Je crois que c'était la deuxième session, la session du ce qu'ils appellent la session de printemps. Il y avait les toilettes qui étaient bouchées. Il y avait une toilette bouchée. Ah, c'est un peu mon défaut professionnel. Moi, j'ai vu qu'il y avait un panneau en allemand, là, défect, signé par l'intendance du Palais fédéral. Alors, moi, j'ai mes cartes de visite. Alors, j'ai mis une carte de visite. En me disant d'un coup que je pouvais jouer sur deux tableaux, le Conseil national, puis faire venir un de mes gars pour déboucher le WC tout en rigolant. Alors j'ai fait une photo que j'ai publiée sur Facebook. Alors bien sûr que cette photo, elle a fait le tour des popotes. Puis elle m'est revenue par un journaliste de la RTS qui m'a interpellé par rapport à ça. Donc tout le monde rigolait. Alors c'est clair que ça fait rire, mais après, ça fait aussi partie un petit peu du jeu. On ne doit pas, même quand on est Conseil national, on peut rigoler, on n'ose pas boire de verre parce j'ai vu qu'il y avait une enquête qui avait été faite, qu'on était des alcooliques. Alors, c'est pas mon cas, j'aime bien boire un verre, mais je ne me considère pas comme un conseil national alcoolique, que les auditeurs neuchâtois le savent, pour que dans 2 ans, 3 ans et demi, ils me réélisent au Parlement fédéral, quoi.
Et puis, est-ce que vous vous débrouillez en allemand? Parce que je pense qu'il y a aussi des parties en allemand.
Oui, il y a beaucoup en allemand. Mais comme j'ai déjà dit, puis je suis franc, je ne sais pas du tout l'allemand, j'apprends. Mais c'est compliqué parce qu'à 52 ans, on n'apprend plus les langues comme quand on est à l'école. Alors je me débrouille, j'arrive quand même à comprendre, suivre les dossiers. Il y a beaucoup de choses qui sont traduites. Le plus dur, c'est en commission. Parce qu'en commission, il n'y a pas de traduction et puis c'est un peu compliqué. Mais on a quand même tous les rapports qui sont en français. Mais des fois, quand ça part sur des choses techniques, ça devient compliqué, mais j'arrive toujours quand même à suivre. Puis dès que je connais le sujet, alors après j'arrive à suivre, mais je ne peux pas répondre en allemand. Moi, si je prends la parole, c'est toujours en français. Et puis, ce qui est un peu frustrant, c'est que nous, les romans, on n'a jamais été trop enclins à apprendre l'allemand. C'est un peu cette mentalité quand on a en Romandie. Mais par contre, les Suisses allemands, ils savent tous très bien le français, ou en tout cas, une bonne partie, ils savent très bien le français. Mais alors, par contre, ils ne font pas d'efforts pour parler en français. Mais c'est clair qu'ils peuvent dire la même chose que de nous. Pourquoi on ne fait pas l'effort pour parler en allemand? Mais eux, ils savent, mais nous, j'ai mes collègues parlementaires romands. Il y a ceux qui sont là depuis quelques années, qui savent un petit peu. Mais les nouveaux, ils ne sont pas beaucoup plus à l'aise que moi avec la langue de Goethe.
Est-ce qu'il y a des dossiers justement qui vous tiennent plus à cœur que d'autres?
Oui, bien sûr, comme les dossiers des transports, le dossier de l'agriculture. Ça, c'est des dossiers qui me tiennent à cœur, mais c'est aussi des dossiers dont je ne fais pas partie dans les commissions, donc je n'ai pas tellement de pouvoir de changement. Donc c'est aussi ce que j'ai dit. Il y a les initiatives personnelles que je vais déposer, et puis il y a aussi la défense des intérêts cantonaux qui me tiennent aussi à cœur. Si je peux faire avancer certains dossiers au niveau du canton à Berne, je ne me gênerai pas, même si des fois, ils peuvent être en porte-à-faux avec le parti.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Avec Claire et puis quelqu'un pour jouer aussi avec nous.
Oui, nous avons Rose qui est avec nous. Bonjour Rose, comment ça va?
Bonjour Claire, très bien, merci.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici, en tant que planchotière dans ce village?
Tout, le calme peut-être aussi. Mais j'ai dû m'adapter pendant 2 heures quand même. Hein, parce qu'au début, je dis jamais, jamais. Mais maintenant, ça va très bien.
Vous avez un joli petit accent. C'est de quelle région de Suisse?
De Münzingen, ça veut dire à Berne, voilà.
Et vous parlez encore un petit peu le Schwyzerdütsch?
Avec Didier Calam, oui.
Ben c'est bien comme ça.
Entendre.
Voilà, vous pouvez lui donner un petit peu des cours.
Voilà, exactement. Il paye peu, mais c'est efficace.
Ben moi, je trouve qu'il paye par sa bonne humeur, par sa gentillesse.
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Voilà, et ça fait du bien de voir des gens comme ça, humains, qui sont autant sympathiques.
Oui, ça c'est vrai. Et qui se bat pour tout ce qui se passe ici autour, c'est ça qui est beau.
On va jouer et voici votre jeu.
L'air de jeu, culture générale.
Un questionnaire lié à la Suisse. Vous connaissez un petit peu votre pays, j'imagine?
Oui, je connais Thun, Berne, Neuchâtel, les Planchettes.
Bon, alors on va voir. Vous êtes prête?
Oui.
Quel est le plus haut sommet de Suisse qui fait partie du Mont Rose?
La Pointe du Four.
Sur quelle prairie suisse dominant le lac des Quatre Cantons a été signé le pacte fédéral?
Le Grütli.
Et enfin, dernière question, quel conseiller fédéral vaudois dirige le département fédéral de l'économie et de la formation et de la recherche depuis 2019?
Parmelin.
Waouh! Alors je vais me tourner vers... Alors Didier Calam, venez vers moi, on va revenir sur ce questionnaire. Quel est le plus haut sommet de Suisse situé dans le massif du Mont Rose?
C'est la Pointe du Four.
Et ouais, qui culmine à 4634 mètres. Est-ce que vous aimez la montagne?
J'adore la montagne, j'adore les Alpes. Autant le Jura, les Vosges, même le Massif central en France où je vais souvent voir des vaches, puisque j'ai des vaches de la race Aubrac. Tous ces massifs montagneux, c'est juste magnifique.
Après, ben, sur quelle prairie dominant le lac des Quatre Cantons a été signé le pacte fédéral?
C'est la plaine du Grütli, officieusement le 1er août 1291, mais c'était en août. 1291, on a arrêté la date du 1er août parce qu'il fallait bien donner une date.
Vous êtes, j'imagine, déjà allé sur cette prairie?
Je suis allé une fois sur la plaine du Grütli. Je rêve d'aller au tir du Grütli parce que je fais aussi du tir concours. On n'a jamais été invité parce que c'est les sociétés de tir qui sont invitées, mais je me réjouis d'aller faire ce tir. Il paraît que c'est vraiment génial.
Et puis alors, le conseiller fédéral qui dirige le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche?
C'est Guy Parmelin.
Effectivement, qui a été président de la Confédération en 2021. Alors lui, il n'est pas fort en anglais. Hein.
Alors, je ne sais pas s'il n'est pas fort en anglais, mais il parle quand même assez bien l'allemand. Et puis, c'est, je pense, un bon conseiller fédéral, même si des fois, je ne partage pas toujours ses idées sur l'économie, qui lui est chef aussi du département de l'économie, qui doit être un petit peu ouvert pour les accords de libre-échange avec les pays autour de notre planète. Mais je pense qu'il ne fait pas tout faux. Et puis, il faut juste qu'on fasse attention à ces accords, pas que ça prétérite l'économie agricole. Mais on sait très bien que dans les accords doivent aussi favoriser l'économie, les machines, le textile, la pharma. Alors, c'est un département qui n'est pas facile pour lui, mais je pense que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à lui reprocher.
Ben Rose, c'est un carton plein. Ça veut dire que je vais vous remettre une carte cadeau lundi de 30 francs. On vous souhaite une belle suite de dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire par là pour cette journée?
Alors, on va certainement manger sur la terrasse à la Couronne et après, on va retourner tranquillement à la maison.
Merci d'avoir participé à notre jeu et on
Merci
vous souhaite tout bon.
Merci beaucoup et bon dimanche.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Retour aux planchettes où cette fois-ci on va parler d'animaux, hein, parce qu'il semblerait que votre invité Claire aime bien les animaux.
Oui, puisque notre invité Didier Calam, conseiller national, est également agriculteur. Vous avez quel genre de bêtes dans votre ferme?
Alors, moi, j'ai des vaches allaitantes depuis 2012. De 1997 à 2012, j'ai trait. J'avais des vaches laitières de race Montbéliarde. Puis la vie étant, c'est qu'en 2012, j'ai dû quitter une partie de mon exploitation où j'étais en fin de bail. Et puis, je me suis lancé dans l'élevage allaitant. Et puis en 2015, on a reconstruit une ferme neuve et puis j'ai choisi de partir sur la race Aubrac.
C'est quoi comme race de vache?
Ben, la race Aubrac, elle est originaire du sud du Massif central, donc du plateau de l'Aubrac, donc qui prend le nord Aveyron, le sud du Cantal et puis le département de la Lozère. Donc qui est vraiment une race qui a été façonnée sur le plateau de l'Aubrac. C'est une race qui est vraiment une bonne race maternelle pour faire de la vache allaitante, qui est rustique, qui s'adapte très bien sur nos pâturages jurassiens et même dans les Alpes, où moi je fais alper une partie de mon troupeau l'été dans le Valais. Et puis c'est vraiment une belle race. Et du reste, sur sa terre d'origine, ils les appellent les belles aux yeux noirs.
Et c'est quoi les caractéristiques de ces vaches?
C'est une vache qui est très, très rustique. Elles sont brunes, elles ont des cornes. Nous, une partie, elles ont des cornes, l'autre partie, elles n'en ont pas. Pour question d'élevage, on enlève les cornes. Toutes les vaches que j'importe depuis la France, elles gardent les cornes, on ne les enlève pas. Et du reste, elles ont les cornes en forme de lyre. Puis les vaches, elles font en moyenne 800 kilos, environ 800-850 kilos. On fait des taureaux d'élevage, on élève des taureaux d'élevage, puis on vend les taureaux à 10 mois aussi, sur ceux qu'on n'élève pas pour l'engraissement. Et puis toutes les femelles, on les élève pour la vente en élevage ou on les réexporte en France. Et puis notre élevage, sans trop vanter, je ne veux pas le faire, mais on a très bons résultats sur l'élevage. Pourtant, il n'est pas vieux, mais j'ai investi beaucoup d'argent justement par l'importation, par l'achat de bonnes bêtes sur les troupeaux qui étaient en Suisse. Elle n'est pas très connue en Suisse, l'Aubrac, parce qu'il y a les autres races qui sont plus puissantes, la Limousine puis l'Angousse. Mais aujourd'hui, l'Aubrac, elle a un avenir certain parce que c'est vraiment une race qui est rustique, qui demande peu et puis qui fait qu'on a des résultats économiques super intéressants avec cette race-là.
Mais pourquoi vous avez choisi cette race-là plutôt qu'une race suisse ?
Des races suisses en allaitant, il n'y a que la Simmental, puis la brune d'origine, et puis elle ne me plaisait pas trop. Et puis j'avais un voisin qui avait déjà des Aubrac, puis je les trouvais belles. Et puis je suis parti là-dedans, et puis je ne regrette pas, en aucun cas je regrette. Et puis quand je vais chez mes amis éleveurs dans l'Aubrac, dans la région de l'Ayol ou Nasbinal, ils ont vraiment, c'est des éleveurs, et puis ils arrivent à sortir avec des résultats exceptionnels avec cette race-là. Et puis à aucun moment j'ai regretté les investissements que j'ai fait pour cette race, j'en suis amoureux, c'est vraiment une super race d'élevage, puis tous ceux qu'on a, ils changeraient pour aucun cas l'Aubrac avec une autre race.
Et alors les taureaux sont aussi de cette race Aubrac?
Alors les taureaux, ouais, alors là on importe les taureaux, moi j'importe les taureaux maintenant, avant on avait des taureaux en Suisse, mais vu qu'en Suisse on n'a pas trop, il y avait vraiment un gros ou deux gros élevages qui avaient déjà importé, parce que les premières sont arrivées en 1997. On est trop vite sur des rappels de sang. Alors moi, je vais chez mes amis dans la région de Rodez, l'Ayol, et puis on achète les taureaux dans les très bons élevages, puis qu'on importe. Ils sont un peu plus coûteux que ceux qu'on achète en Suisse, mais le résultat, il vaut vraiment l'investissement.
Pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire quoi, allaitante ?
Vache allaitante, c'est les veaux qui restent sous la mer. Quoi. On ne traite pas les vaches, c'est les veaux naissent, puis les mères les allaitent jusqu'au sevrage à 10 mois. Et puis, c'est pas des vaches laitières, c'est vraiment des vaches allaitantes.
Mais est-ce qu'on pourrait boire le lait ? Est-ce qu'on pourrait faire du fromage avec ce lait de cette race de vache Aubrac ?
Ah oui, bien sûr, puisque déjà la race Aubrac, elle existe depuis, elle a été croisée, je pense, dans les années 1600. C'est une race, comme dans toutes les races, il y a eu des croisements. Et puis cette race était utilisée principalement jusqu'avant la guerre comme bétail de trait. Donc ils tiraient les charrues avec et puis ils les trayaient dans les burons. Pour ceux qui ont déjà été dans l'Aubrac, il y a les burons d'altitude, c'est des maisons de pierre, de basalte. Alors, ils montaient les vaches à la belle saison, là-haut, sur le plateau. Et puis, ils devaient les traire, ils les traillaient le matin ou le soir. Puis, ils faisaient le fromage de l'Ayol, les foumes de l'Ayol ou la tombe fraîche de l'Aubrac. Et puis, une traite sur deux, ils laissaient les veaux têter. Ou alors, de toute façon, pour les traire, vu que c'est des vaches très maternelles, il fallait déjà amorcer le veau. Donc, moi, j'ai vu ça. Ils font ça encore une ou deux places, un peu pour le tourisme et puis tout ça. Donc, ils mettent le veau, il tète pendant une minute. Après, ils retirent le veau. Ils traient les vaches à la main parce que tu ne peux pas les traire à la machine. C'est des vaches qui ne sont pas possibles de traire à la machine. Puis après, avec ce lait-là, ils faisaient le fromage de l'Ayol. Donc, c'est des vaches laitières qui étaient à deux fins. Maintenant, ils n'en traient plus beaucoup, des vaches au braque. Ils ont remplacé parce que, bien sûr, dans les années 70, elle a failli disparaître parce que la mécanisation a fait que ils n'avaient plus besoin de ces bêtes pour le trait. Donc la race a failli disparaître. Il y a des vieux paysans mordus qui ont dit il faut sauver cette race. Mais ceux-là, on peut leur donner une médaille d'or parce qu'ils ont sauvé vraiment la race d'Aubrac. Et puis, le problème qu'il y avait, c'est qu'ils voulaient aussi sauver le fromage de l'Ayol. Et puis, ils ont dû trouver des solutions, trouver une autre race qui avait les caractéristiques similaires du lait de l'Aubrac, de la race Aubrac. Alors, ils ont testé plein de races. Et puis ils sont arrêtés sur la race Simmental. Alors, au début des années 1970, ils ont créé la coopérative Jules Montagne à l'Ayol. Et puis ils ont importé les premières Simmental. Et aujourd'hui, la coopérative Jules Montagne à l'Ayol, il y a 85 exploitants qui livre du lait dans la coopérative. Donc c'est une immense fromagerie qu'à Laiolle. Ceux qui connaissent, ben, voient très bien où elle est. Et puis ce fromage de Laiolle est fait avec du lait de vache Simmental.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et comme le temps passe vite, on va retourner une toute dernière fois aux planchettes.
On a passé vraiment une chouette matinée sous le soleil avec des gens sympathiques et puis un conseiller national qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce matin. On a beaucoup rigolé, on a appris plein de choses sur vous, Didier Calame. En tout cas, merci. Et comment va se passer ce mois de juillet, ce début du mois d'août pour vous aussi ?
Ben, on va retourner à Sierre. Là, je vais repartir demain matin. Jusqu'à mercredi, après on verra si l'avancement des travaux là-bas, je pense qu'on arrive gentiment au bout, mais ça c'est les personnes qui nous commandent le travail qui vont regarder. Je vais faire le 1er août, je vais faire un discours aux verrières, et puis la fin de semaine, je vais la passer un peu en famille, les gamins encore 2 semaines de vacances, je vais quand même tâcher de faire 1 ou 2 trucs avec, même si ça ne va pas être super facile. On ne peut pas partir, mais on va peut-être partir 1 ou 2 jours. Puis après, ben, ça continue, la vie professionnelle, puis au mois de septembre, il y a la session. J'ai quand même déjà des séances de commission au mois d'août, donc ma vie continue traditionnellement.
Et puis est-ce que vous avez des ambitions au niveau politique ? Est-ce que vous aimeriez un petit peu gravir des échelons encore ?
Ben, j'ai déjà essayé de faire 4 ans au Conseil national comme il faut, essayer de faire avancer, comme j'ai dit avant, des causes qui me plaisent. Et puis j'ai quand même l'ambition de me remettre en liste dans 3 ans et demi maintenant, pour continuer. Après, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'électeur qui décide. Puis pour satisfaire l'électeur, ben, faut aussi amener des choses intéressantes. Bien sûr que j'ai toujours été plus une personne d'exécutif que de législatif. Donc je ne cache pas que l'intérêt pour le Conseil d'État Neuchâtelois m'intéresserait, mais pas, en tout cas pas l'année prochaine, parce que déjà c'est trop tôt. Et puis je ne dis pas que dans 5 ans, je me profile pas un petit peu pour le Conseil d'État, mais voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut prendre les étapes les unes après les autres. Mais c'est sûr que l'exécutif cantonal m'intéresserait, mais fédéral, c'est quasiment chose impossible, puisqu'on sait très bien que quand tu es en liste pour le Conseil fédéral, il y a pas mal de paramètres qui sont en cause. Mais en tout cas, l'État, le canton de Neuchâtel, je ne dis pas qu'une place au Conseil d'État me désintéresserait. J'ai même déjà dans l'idée, dans 5 ans, de me profiler. Mais ça, il faut voir aussi. Maintenant, je suis conseiller national et puis je reste conseiller national.
En tout cas, merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup Claire et puis merci RTL. Puis aux auditeurs.